forum du studio Calam,
le forum du studio Calam, le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio Calam,
le forum du studio
Calam,
le forum du studio
Calam, le forum du studio Calam,
le forum du studio
Calam, le forum du studio
Calam,
le forum du studio
Calam.
À Niamey et à Bamako. Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de nos radios partenaires. La thématique du jour est lutte contre l'esclavage au Sahel. Où en sommes-nous? Avec nos invités, nous allons faire un état des lieux de l'esclavage au Sahel, les conséquences et les synergies d'action possibles pour l'éradication de ce phénomène des sociétés. Nous avons donc le plaisir de recevoir Ali Bouzou, secrétaire général de l'association Timidiria, une association qui lutte contre l'esclavage au Niger et secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Ali Bouzou, bonsoir.
Bonsoir.
Au téléphone depuis Bamako, Ibrahim Aga Ed Baltanat, il est le président d'honneur de l'association Temet, une association qui lutte contre l'esclavage au Mali. Ibrahim Aga Ed Baltanat, bonsoir.
Bonsoir.
Et Maïmoussa, juriste, Maïmoussa Mahaman, juriste, chef divisionnaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH, au Niger. Ali Maïmoussa Mahaman, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Au microphone, Mokhtar Hamadou et Ibrahim Haran Diallo. Ali Bouzou, comment définir l'esclavage et comment votre association Timidiria aborde-t-elle les questions liées à l'esclavage?
Ok, merci de nous avoir donné quand même la parole pour un peu informer ou sensibiliser les gens sur la question de l'esclavage et ce que nous faisons soit au Niger ou dans le Sahel. Donc, je vous ai dit hier que nous avons défini et l'esclavage au Niger sous trois formes. Donc, il y a la forme active où l'esclave et tout ce qu'il a sont la propriété du maître. Ça, c'est des cas d'esclavage qu'on retrouve chez généralement les nomades, les Touaregs, les Arabes et les Toubou, dans les régions de Nord Tilaberi, Tawa, Agadez, Zender et même Difa. Donc il y a l'esclavage passif ou qu'on appelle esclavage par ascendance. Je vous l'ai dit, parfois tu peux même pas savoir que tu es esclave. Il va falloir aller dans certaines cérémonies, mariages ou élections ou questions d'héritage pour te rappeler ton origine servile. Et il y a l'autre forme qui est la forme contemporaine de l'esclavage. La traite des personnes. Je vous l'ai dit hier que nous l'avons défini. Nous avons identifié une zone dans la région de Tawa où s'est pratiqué le phénomène de la wahaya, qui est une forme de mariage déguisé.
Et donc, comment ça se présente dans les autres pays du Sahel, puisque vous êtes le secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage?
Bon, je voudrais ici préciser que tous les pays, en tout cas du G5 Sahel, ont presque la même particularité sur la question de l'esclavage. Quand vous prenez ce qui se passe au Niger, c'est ça qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, au nord, c'est ça qui se passe aussi en Mauritanie. Donc, mais le problème, le grand problème qu'on a, c'est qu'il y a des pays, par exemple le Mali et le Burkina Faso, qui n'ont pas ratifié, qui n'ont pas pris une loi qui criminalise l'esclavage. Et du coup, et ça, là, je pense que c'est une idéologie, soit de préserver ou bien de reproduction de l'esclavage.
Donc, vous faites allusion au manque de volonté politique.
Oui, parce que même dans les pays, par exemple, dans tous les pays, là, c'est au Niger qu'il y a presque toutes les lois sont ratifiées, mais malheureusement, l'application, elle est timide.
Justement, M. Bouzou, parlant de la criminalisation justement du phénomène, on sait qu'au Niger, déjà, il y a une loi qui a été votée depuis 2003.
Oui.
Alors, 16 ans après l'adoption de cette loi, est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent?
Je viens de le dire que l'application est timide. Ça veut dire, si je dis qu'elle est timide, mon cher, ça n'avance pas. Puisque de 2003 à maintenant, il n'y a pas plus de 4 cas réellement qui ont été jugés. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, on a un avocat qui est là depuis 2003 et on a plus de 70 dossiers qui sont devant les tribunaux encore. Je vous donne un exemple. On a un cas d'esclavage actif. L'affaire s'est passée ici à Niamey en 2018-2019, là, où juste pour demander au juge de faire le programme de jugement, jusqu'à présent, le juge d'instruction n'a pas ordonné ça. Et c'est une affaire qui est là. Il y a eu toute l'enquête de la police judiciaire, les procureurs de la République a vu, mais juste programmer l'affaire, jusqu'à présent, c'est la dame Faudie. Tout le monde sait. Et ça, vous voyez, de 2018 à aujourd'hui, programmer un cas d'esclavage, c'est vraiment grave. Ça n'a pas été fait, donc c'est grave, quoi. Et d'ailleurs, même toutes les autres affaires, quand vous prenez, s'il y a une affaire devant les tribunaux qui concerne l'esclavage, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs années. Plusieurs années pour qu'on juge. On a des dossiers de 2002 qui sont encore là. Mais quand vous prenez d'autres dossiers banal ou quoi, c'est à moins de 2 jours, 1 semaine, on programme, on juge. Donc, ça, malheureusement, ça se passe partout dans les G5 Sahel. Et je crois que ça ne surprend pas, parce que tous les pays du G5 Sahel ont un seul colonisateur, c'est la France. Et la France, en réalité, elle n'a rien fait pour éradiquer l'esclavage.
Est-ce que c'est le rôle de la France de lutter contre l'esclavage dans ces... Est-ce que le premier plan, en tout cas la France doit être au premier plan? Je crois que ce sont les
États.
Oui,
mais vous savez, les constitutions de tous ces pays-là sont tirées de la constitution française. C'est ça. Et tous ces pays-là, vous êtes des journalistes, vous savez qu'il ne faut rien sans la France.
Donc, selon vous,
même le code pénal,
selon vous, Ali Bouzou, les textes dans nos pays sont insuffisants?
Je ne peux pas dire insuffisants. Il faut d'abord appliquer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de textes et sans application. Ça ne sert à rien de réviser les textes tant qu'on n'a pas appliqué. Si on veut réviser les textes, il faut appliquer. Maintenant, c'est en appliquant qu'on va savoir, qu'on va identifier les insuffisances ou pas. Donc, c'est ça.
Si la ligne est bonne, on va aller vers Ibrahim, depuis Bamako. Ibrahim, où en sommes-nous au sujet de la lutte contre l'esclavage au Mali? Ibrahim, vous nous entendez?
Oui.
Ibrahim, où en sommes-nous au sujet de la lutte contre l'esclavage au Mali?
La lutte contre l'esclavage au Mali, où nous en sommes? On est pour l'instant, quelques organisations de la société civile sont en train de se débattre pour faire prendre conscience aux décideurs pour que la pratique même ne soit plus un déni, pour que l'esclavage ne soit plus un déni au Mali. Parce qu'au Mali, jusqu'ici, il y a déni d'esclavage. Donc la lutte est à ce niveau et donc en gros c'est ça la lutte en ce moment. C'est le plaidoyer pour que les autorités acceptent qu'il y ait tel le bien, que l'esclavage persiste, pour que les Maliens prennent conscience, les cadres maliens, la société civile malienne, pour qu'elle prenne conscience de son devoir de lutter pour éradiquer la pratique de l'esclavage. Et voilà, c'est là qu'on est en ce moment.
Alors, Ibrahim, quelles sont les difficultés auxquelles les organisations anti-esclavagistes sont confrontées au Mali?
Bien, les difficultés, c'est un peu... Bon, ça veut faire allusion à ça. Les difficultés, c'est que face... face aux autorités, on a un mur, un déni total, un déni de la persistance de l'esclavage. Ça, c'est une difficulté. Les décideurs ont honte d'accepter que l'esclavage est une réalité. L'autre difficulté, c'est qu'au sein de certaines populations, elles assimilent l'esclavage aux coutumes. Aux coutumes, bon, ça, c'est les esclavagistes qui les soutiennent, quoi. Ils disent, bon, c'est notre coutume, on est comme ça. L'autre difficulté également, c'est les moyens de lutte, parce que ce travail de lutte contre l'esclavage, la première organisation qui a commencé à en parler ouvertement au Mali, c'est TENET en 2006. Donc, on a besoin que ce soit un travail d'ensemble, mené par plusieurs.
Alors, Ibrahim,
les difficultés qu'on rencontre, c'est essentiellement ça.
Oui.
La non-prise, c'est le fait que l'État dénie, le fait qu'on n'a pas de loi qui criminalise la pratique de l'esclavage. Et puis le fait aussi que l'abolition de l'esclavage même, elle est coloniale, elle n'est pas malienne. Ce n'est pas le Mali qui a aboli l'esclavage, c'est le colonisateur. Ce qui fait que l'esclavage est une pratique courante. C'est comme l'air qu'on respire. C'est banal.
Alors, Ibrahim,
c'était quelqu'un d'esclave. Okay.
Oui, Ibrahim, selon certains observateurs, une frange importante de certaines de ces victimes de domination ou d'exploitation, d'exclusion ou même d'autres formes de discrimination liées à l'esclavage reste encore silencieuse. Alors, comment vous l'expliquez?
Oui, elle reste silencieuse. Je l'explique toujours par le manque de volonté des autorités. C'est parce que le pouvoir, c'est l'autorité. Quand l'autorité manque de volonté, elle se fait complice de ceux qui pratiquent des esclavagistes. Alors, les gens vont rester silencieux parce que ils ont même honte de s'afficher parce que c'est l'esclave, il n'y a rien de bon, de bien dans l'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas digne. L'esclave, c'est une personne qui est comme un bien matériel. Et Donc, si y a un déni par le pouvoir, les gens vont se cacher. Et puis, également, souvent on se cache parce que lorsque la société découvre que tu es d'ascendance esclave, alors tu n'as plus de considération. Voilà les raisons pour lesquelles une majorité est silencieuse. Effectivement, une majorité est très silencieuse pour ces raisons.
Alors, Ibrahim, depuis 2010, un projet de loi peine à être adopté au Mali. Quelles sont les raisons de ce blocage?
Ah oui, les raisons, c'est ça, c'est le manque de volonté. Et puis les raisons, moi j'ai toujours dit que l'État malien est un État esclavagiste parce que c'est un État esclavagiste seulement qui ne va pas adopter cette loi-là.
Alors Ibrahim, quand vous dites que l'État malien est un État esclavagiste, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
Je veux dire concrètement, quand tu encourages une situation, tu ne fais rien contre, c'est que tu l'acceptes. Au lieu de t'accuser de complice, je dis que tu es responsable. Et puis, l'État est responsable de ce qui se passe. L'État a l'obligation, le devoir, ce n'est même pas un devoir, c'est une obligation, de mettre fin à une pratique injuste qui assimile des citoyens humains, des citoyens à des animaux qui n'ont pas de droits. Quand un État est là, il ne joue pas ce rôle, alors moi, au lieu de dire qu'il est complice, moi j'ai dit qu'il est esclavagiste. Ça veut dire que ça lui plaît.
Ça veut dire que vous n'avez pas été satisfait des récentes interventions du ministère de la Justice par rapport à la situation des CAI. Le ministre quand même a prêté secours aux victimes.
Le ministre de la Justice, actuel du Mali, ça c'est moi, c'est quelqu'un auquel j'ai fait totalement confiance et qui est courageux. Mais c'est les ministres seulement, il y a l'État tout autour. Si l'État faisait déjà son problème, ça va finir. Mais les ministres actuels, que Dieu prolonge sa vie, qu'il ait une longue vie, parce que c'est un combattant. Je l'ai connu avant même qu'il soit ministre. Et puis, il reste dans cette logique. Mais ce n'est pas lui l'État. Mais d'accord, l'État, il est ministre. Même moi, je suis une partie de l'État. Parce que chaque citoyen est une partie de l'État. Mais il y a ceux qui sont aux commandes. Ceux qui sont aux commandes encouragent la persistance de l'esclavage.
Alors, Ibrahim, restez en ligne. L'État de donner la parole à Maïmoussa. Maïmoussa Mahamman, quels sont les textes et instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par nos États au sujet de la lutte contre l'esclavage?
Merci de me donner la parole pour me prononcer par rapport aux instruments juridiques qui sont ratifiés par le Niger dans ce domaine. Il faut d'abord retenir que le Niger a initié des mesures pour améliorer son cadre juridique national en rapport avec la pratique de l'esclavage depuis 1999. Une commission des réformes des textes juridiques qui a, entre autres, examiné la question de l'esclavage, des mutilations génitales, du harcèlement sexuel, pour ne citer que cela. Ces réformes ont concerné le code pénal et le code de procédure pénale qui, il faut le rappeler, date de 1961. C'est une loi la loi numéro 101-027 du 15 juillet 101 portant instruction du code pénal qui a été modifiée donc pour être examinée et adoptée et donner une loi en 2003 par un vote, il faut le reconnaître, à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'adoption pour la première fois d'une nouvelle loi qui criminalise l'esclavage constitue à mon sens, un progrès, un grand progrès pour la démocratie nigérienne. Avant, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, on a des lois, même si certains acteurs qui luttent dans ce sens ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu ce progrès. Il faut reconnaître qu'en criminalisant déjà l'esclavage au Niger, c'est un progrès. Ça veut dire que l'autorité reconnaît que ces pratiques existent. C'est un pas de gagné.
Oui, mais au regard de ce que les associations de lutte contre l'esclavage disent, ça veut dire que en pratique, il n'y a pas d'effet positif.
Le problème, c'est qu'il est général. Il est général, il ne concerne pas seulement le domaine de l'esclavage. La lenteur judiciaire, c'est une donne en Afrique. Dans tous les domaines, les dossiers n'avancent pas. Et c'est lié au système judiciaire que nous avons. On n'a pas beaucoup de magistrats, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire marcher la justice. Donc moi, je ne lis pas ce problème en termes de cas déjà jugés. Mais je pense que le problème doit être situé au niveau, surtout, de la lenteur, admettons. On a combien de juges on a un juge pour combien d'habitants au Niger? Il faut voir les statistiques. Mais par rapport à cela, je crois que l'État fait tout pour pallier à ce problème, parce que au dernier recrutement même, il y a 50 qui ont récemment prêté serment, 50 magistrats. Donc c'est dans ce sens qu'il faut voir le problème. Un seul juge pour 60 000 habitants, ça ne peut pas aller.
Maïmoussa, oui. Mahamane, la constitution du Niger réaffirme le droit du citoyen d'être libre de toute forme d'esclavage et consacre le principe d'égalité devant la loi sans discrimination de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Comment expliquer la persistance du phénomène au Niger?
Elle est, sur ce plan, je dirais qu'elle est... Il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Il y a une classe intellectuelle qui est d'ailleurs issue quelque part de ces milieux. et qui ne veut pas que les choses redeviennent, que les choses changent.
Ils ont quel intérêt, en tout cas, ces catégories de
l'intérêt
personnes?
L'intérêt, c'est que la plupart sont issus de chefferies traditionnelles. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Pour eux, quand on va renverser la situation, les choses risquent de tourner mal en leur faveur. C'est surtout ça qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'intellectuels qui reconnaissent, un intellectuel qui se permet de dire que l'esclavage a un contenu culturel au Niger. Il est évident que chez cette personne, il n'existe aucune volonté d'y mettre fin. Quand vous donnez un caractère culturel à quelque chose, c'est que vous dites que c'est quelque chose qui doit être. Pourtant, on a vu que plusieurs mots dans notre société ont été éradiqués, qui avaient pourtant des contenus culturels. Je prends l'exemple de l'excision. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas, parce qu'il faut reconnaître que les luttes ont permis d'y mettre fin dans plusieurs sociétés. Donc, quand un intellectuel se permet de dire que l'esclavage a un caractère, a un contenu culturel et qu'on ne peut pas y mettre fin, c'est quelque chose qui doit y être comme ça, c'est comme ça, je me demande bien, est-ce que là on peut parler d'une volonté d'y mettre fin?
Alors, M. Bouzou, je me retourne encore vers vous. Et ici au Niger, quelles sont les différentes formes de manifestation de l'esclavage au Niger?
Ok, je voudrais un peu d'abord réagir à ce que Maï a dit. En fait, je voudrais préciser quelque chose. Nous, on n'a pas dit que l'existence de la loi n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, si la loi a existé, c'est grâce à notre plaidoyer. Car la commission même faisait allusion, quand elle a été créée, c'est Temedria qui a été appelé pour expliquer c'est quoi l'esclavage, la persistance. Donc Temedria était parti, elle a expliqué. Et le président de cette commission à l'époque est actuellement l'avocat de Temedria. Donc ça veut dire, nous, on a dit, en fait, l'existence des lois au Niger, c'est le pays le plus avancé de tout G5 Sahel. Mais nous, on veut aller à l'application, puisqu'on a déjà l'arsenal qui est là. Oui, mais donc, il faut aller à l'application.
Les raisons qui ont été invoquées par Maï Moussa ne vous convainquent pas, quand il dit qu'il y a un problème de moyens à la disposition
non,
de l'État,
non,
notamment
non, il y a pas problème
la
de
justice.
En fait, non. Lui-même, je l'ai écouté dire la question de l'interface générale ou quoi. Non, le cas d'esclavage, il n'a qu'à me dire un seul cas d'esclavage qui a été jugé durant 10 ans. Il n'y a pas, si ce n'est pas la récente affaire de Dakoro, là. Il n'y a pas. Même le premier cas qui a été amené, le monsieur, quand il a agi, c'était même avant la loi, avant l'existence de la loi, en 1998, quand le juge, à l'époque, Achente Baraden, a jugé le chef esclavagiste. Mais le jour où il a rendu son verdict, c'est le même jour-là qu'on l'a affecté de Tchentabaraden. Donc voilà, ça c'est un. Deuxièmement, et si on l'affecte à Tchentabaraden, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer à faire le travail, c'est ça, non? Et deuxièmement encore, la dame Fodi, qui est là, pas dame Fodi, plutôt Khadija Toumani, elle a été condamnée même par la justice, malgré l'existence de la loi.
Alors Maïmoussa, est-ce que vous reconnaissez justement ce que Bouzou vient de dire?
Ce que Bouzou vient de dire est tout à fait vrai. C'est pas là le problème, mais je crois qu'il n'a pas saisi ce que moi je voulais insinuer. Je dis pas que l'esclavage, j'ai été témoin. On a fait des missions conjointes avec Bouzou. Moi, j'ai été sur le terrain. J'ai vu avec mes propres yeux ce qui se passe dans le triangle, ce qu'ils appellent le triangle de la honte, par exemple. J'ai vu des femmes, j'ai vu les instruments qui sont utilisés contre ces femmes. Je suis témoin. Mais ce que je dis, il y a un système de l'appareil judiciaire. Quand vous partez, aujourd'hui, si vous avez, il y a des affaires civiles qui n'ont pas été jugées depuis quand, qui traînent à la justice. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la CNDH a toujours fait des recommandations. La CNDH a toujours soutenu Timidiria dans ce qu'ils font.
D'accord, c'est bien noté. Donc, M. Ali Bouzou, vous avez la parole aux différentes formes de manifestation.
J'arrive. Et par rapport au juge, vous savez, le problème de l'esclavage, là, au Niger, il y avait toutes les lois, mais c'est tabou. Les gens ne veulent pas en parler. Les juges eux-mêmes, on a fait plusieurs formations, avec plusieurs réunions. Certains disent qu'ils ne connaissent. En fait, ils ne connaissent même pas l'existence de cette loi-là dans le code de procédure pénale, qui est là depuis 2003. Et tu vas avoir un juge qui va te dire, lui, il n'a pas connaissance de ça. Comment il va faire? Ça, c'est un. Moi, j'ai écouté, j'ai entendu des juges qui ont dit que l'esclavage a un contenu culturel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour cela, toujours, on essaie d'intensifier des formations à l'endroit des juges pour les faire comprendre cette loi-là. Mais si une loi qui existe depuis 2003, jusqu'aujourd'hui, on est en 2020, et qu'un juge dit qu'il n'a pas connaissance de cette loi-là, c'est un problème. C'est un problème.
Alors, mais Moussa Mahaman, quelles sont les voies de recours possibles pour les victimes?
Il existe plusieurs voies de recours. Mais seulement, ce qu'il faut reconnaître, c'est nous sommes au Niger, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Les victimes, souvent, ne savent pas à qui s'adresser. Timidria est en train de faire beaucoup de choses dans ce domaine. Je les en félicite. Ils sont en train d'aider beaucoup à recouvrer leurs droits au niveau de la justice. Ils ont un avocat. Chaque cas qu'ils trouvent, ils le suivent comme cela se doit, comme si le problème était un problème de Timidria. La CNDH, par exemple, est habilitée à recevoir des plaintes. Mais les gens ne vont pas à la CNDH. Les gens ne s'intéressent pas. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est que vous allez trouver des victimes qui se plaisent d'être esclaves, qui pensent qu'ils ont peur d'affronter en fait l'avenir.
Vous voulez dire qu'ils sont complaisants?
Bien sûr. Sans le maître, qu'est-ce que je deviendrai demain? Et pour cela, je pense que c'est un programme de développement qu'il faut. C'est une éducation, c'est des sensibilisations qu'il faut mener. À la justice, on reçoit des plaintes, mais c'est des gens généralement qui ne se plaignent pas.
Alors, Ibrahim, vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, au cours de votre intervention, vous avez dénoncé quand même la volonté politique au niveau de l'État du Mali. Alors, vous avez certainement écouté vos collègues du Niger, notamment Ali Bouzou, qui est revenu sur le même problème, la volonté, la question de manque de volonté politique. Alors, ça veut dire qu'il y a le problème se trouve au niveau des pays, sinon même l'ensemble des pays du Sahel. Alors, quelles sont les possibilités de synergie en termes de synergie d'action justement entre les différentes associations de lutte contre l'esclavage au niveau de cet espace?
Oui, les possibilités, bon, c'est déjà une approche sur laquelle on se trouve. Il s'agit de consolider cette approche. Et ces organisations appartiennent tous à un cadre qu'on avait créé, le cadre G5 Sahel Esclavage, on a parlé de ça. Et il s'agit de rendre ça vraiment fonctionnel, de consolider cet aspect, parce que l'esclavage étant l'institution la plus vieille du monde, combattre une telle pratique, c'est de raciner des montagnes, ce qui fait qu'on a besoin d'être solidaire et aussi d'avoir comme partenaire privilégié la presse au niveau de cet espace, qui doit accompagner, qui doit vraiment, parce que la presse est une arme très importante. C'est le lieu pour moi de vous remercier pour l'organisation de cet échange-là, et qui, je suis sûr, déjà ne restera pas sans avoir de l'impact. Donc, il s'agit pour nous de consolider le cadre existant, et puis de pousser des acteurs comme les acteurs de la presse à se joindre à nous dans une telle initiative et de créer aussi un réseau de presse qui lutte contre l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est vrai, lutte contre l'esclavage, mais les phénomènes d'esclavage, ce n'est pas... C'est tous les Maliens, c'est tous les Nigériens, c'est tous les Sahéliens qui doivent combattre un tel fléau, quelque chose qui n'honore pas l'Africain. Quand je pense à tout ce qui s'est passé, l'Africain, n'importe qui doit s'adonner à cette pratique, sauf en Afrique.
Alors, Ibrahim, parlant des synergies d'action, on sait qu'il y a une autre association internationale qui se trouve au Mali, qui se trouve aussi dans beaucoup de pays du Sahel, notamment la Gambie, le Sénégal, hein, la Mauritanie, qui s'appelle Gambana. Est-ce que vous avez des actions communes, hein, avec cette association en termes de lutte contre le phénomène?
Oui, Gambana, on a des actions communes. Toutes les actions qui se passent... Toutes les actions de Gambana au Mali, c'est des actions qui sont passées au travers de TENEP, tellement on est en relation. C'est TENEP qui a déclenché. Et tout ce qu'ils font, même par exemple aujourd'hui, au moment où je parle, il y a une mission de TENEP dans la région du Kai. Et on collabore très bien avec Gambana.
Alors, Ibrahim, une Afrique sans discrimination est-elle possible?
Une Afrique sans discrimination, moi, je ne sais pas, est-elle possible? Il faut qu'elle soit. Qu'elle soit, parce que les nouvelles générations, ou les générations présentes, doivent se donner la main pour que l'Afrique soit sans discrimination. Ce qui est aberrant, c'est qu'on accuse les autres de nous traiter, d'avoir un regard hautain, de nous traiter comme des esclaves, alors que entre nous, on se traite une certaine fois des autres des esclaves. C'est une aberration. Alors ça doit s'arrêter, parce qu'on ne peut pas aller vers le développement. On ne peut pas amorcer le développement socio-économique tant que ça persiste. Les gens sont en train de se lirer. Tant que certains sont capables de dire à d'autres vous êtes mes esclaves. Ou bien de dire tout simplement que j'ai des esclaves. Ou bien de dire tout simplement moi je suis noble. Vous voyez, c'est de la diversion par rapport à ce qu'il faut pour le développement socio-économique.
Merci Ibrahim.
Pour faire face à l'Occident.
Alors, merci beaucoup Ibrahim.
Pour que Macron n'ait plus un comportement condescendant vis-à-vis de nous.
Alors, hein? Vous estimez que. Qu'est-ce que vous reprochez à Macron? Qu'est-ce qu'il a fait?
Non. Moi, je ne lui reproche rien. C'est mes confrères qui lui reprochent quelque chose. Parce que quand je dis Macron, je parle de l'occidental en général. Il les reproche de nous traiter comme si nous sommes encore des colonies, comme si... est-ce que tu vois? C'est-à-dire que, je vais lui parler là, que quelques mois d'ailleurs, je comprends Macron, parce que tant que des Maliens, par exemple, traitent d'autres comme des esclaves, et puis ce qui le comble en disant que non, c'est la coutume. Ça, c'est le comble même. Tant que c'est comme ça, n'importe qui va venir va mépriser, n'aura pas de considération pour les Maliens. Moi, si je viens dans ta famille, je viens te trouver, tu as ton fils que tu réduis en esclave, ou bien tu l'attaches au truc. Quel respect j'aurai pour toi? Je n'ai aucun respect pour toi,
Ok, merci Ibrahim. En tout cas, je rappelle que nous sommes quand même des pays indépendants. Les pays africains sont devenus des pays indépendants depuis dans les années 60. Ah, donc du Mali, on va revenir au Niger. Maï Moussa Mahaman, est-ce que les sanctions contre l'esclavage au Niger ici sont efficaces?
Si les sanctions sont
efficaces.
Est-ce
que les textes prévoient des sanctions?
Bien sûr que les textes prévoient des sanctions. Puisque. Merci de me recadrer la question parce que, en fait, les textes sont très clairs, sont assez clairs. On a tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est dans la pratique que se pose le problème.
Ouais, c'est pourquoi je demande si
la
c'est
sanction,
efficace.
Je dirais qu'elle n'est pas efficace parce que nous, à l'issue de plusieurs missions d'investigation, nous avons toujours fait des recommandations au niveau de la CNDH. Mais sur le terrain, dans la pratique, ces textes, je dirais que ces sanctions ne tombent pas généralement comme cela se droit. Quand vous prenez le code pénal prévoit des dispositions qui sont assez quand même sévères. Hein? Lorsqu'on dit que l'article par exemple 210, permettez-moi.
De revenir vers vous, Ali Bouzou, quelles sont les autres conséquences du phénomène de l'esclavage pour des pays pauvres comme les nôtres?
Mais les conséquences, d'abord, les pays-là seront des pays non démocratiques, d'abord. Deuxièmement, les pays-là seront toujours dans la pauvreté, et soutenus d'ailleurs, et toujours il y aura des violations des droits de l'homme qui seront toujours là, qu'on va observer. Donc c'est vraiment ça les conséquences, c'est-à-dire qu'on ne sera plus dans un état de droit si on ne fait pas quelque chose pour lutter contre ces phénomènes. Donc vraiment, voilà en fait la réalité des conséquences. Tout à l'heure, là, vous parlez si les sanctions sont lourdes ou quoi. Quand vous prenez l'article 270, là, bon, définit l'esclavage comme un crime. Un crime, c'est des emprisonnements de 10 à 20 ans et d'une amende de 1 à 5 millions. Ça veut dire que c'est vraiment fort. Et on a eu des cas, par exemple, le premier cas qui a condamné quelqu'un à... C'est-à-dire, le premier cas où on a utilisé la loi qui a condamné quelqu'un, c'était à Zander, c'est à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné à 5 millions d'amende. On a vu un autre cas à Konya.
En quelle année?
Oui, c'était en 2015-2016, là. C'est aussi parage-là. Et en 2014, il y a eu un cas à Konya où on a condamné quelqu'un. Bon, il doit être condamné à une peine de plus de 10 ans, mais compte tenu de son âge, il a été condamné quand même à 4 ans, quelqu'un sur la question de la Wahaya. Mais après avoir purgé ses peines, il est revenu. Maintenant, il a célébré les mariages normaux avec ses femmes. Et puis là, actuellement, ils sont ensemble. On l'a vu la dernière fois, on a vu ses femmes à Dograwara. Donc, c'est vraiment ça. Mais nous, le plus important pour nous, vraiment, c'est de condamner.
D'accord, merci. Maï Moussa, vous avez la parole justement pour revenir sur les sanctions, justement.
Effectivement, je reviens sur l'article 210 en son alinéa 2. Je précise qu'il condamne de 10 à 30 ans. De 10 à 30 ans, c'est quand même sévère. Le législateur a vraiment mis en place un outil de répression. Mais si dans la pratique, les choses ne sont pas comme ça... Il faut revoir le problème là où je l'ai tantôt soulevé, la question de notre système judiciaire, la lenteur du système judiciaire. Aussi, je vais rappeler que le Niger a presque ratifié toutes les conventions relatives au traitement dégradant, inhumain. À la très récemment, nous avons notre mandat au niveau de la CNDH a été renforcé. Avec la question de la traite. Donc, c'est comme si on peut dire que réellement, l'État nigérien a la volonté. Même si, quelque part, on ne sait pas ce qui fait que, dans la pratique, les choses ne sont pas telles qu'on le souhaite.
Alors, Ibrahim, comment davantage promouvoir l'ensemble des droits humains dans un monde encore plus juste, équitable et plus humaniste?
Allô?
Comment davantage promouvoir l'ensemble des droits humains dans un monde encore plus juste, équitable et plus humaniste?
Bon, comment promouvoir les droits humains dans ce monde? C'est pour promouvoir les droits humains de manière plus juste, il faut que les organisations de la société civile, en particulier dans les domaines, elle-même soit vraiment agressive. Il faut qu'elle soit une véritable société civile qui mène son combat, parce que les changements sur tous les cieux, c'est la société civile qui impulse, qui fait la pression. qui fait le lobby pour qu'il y ait les changements souhaités. Donc il faut qu'il y ait une société civile forte et bien organisée, solidaire. Ensuite, il faut que les élites fassent le jeu. Peut-être il faut un renouvellement même d'élite. Je ne veux pas une révolution ou non. Je veux dire seulement qu'il faut qu'il y ait des responsables porteurs de changement, porteurs de valeurs de changement.
Allez Bouzou.
La société ne doit plus accepter un responsable qui s'accommode de certaines pratiques rétrogrades. Et en disant non, en soutenant que c'est la coutume.
Merci Ibrahim Ali Bouzou. Comment davantage promouvoir l'ensemble de ces droits humains dans un monde encore plus juste, équitable et plus humaniste rapidement?
Bon voilà, Ibrahim, vous avez dit en tout cas quelque chose dedans, et c'est ça. Parce que aujourd'hui, si on veut promouvoir, c'est-à-dire les droits humains, il faut que nous, société civile, en tout cas qui sont actifs dans ces domaines, qu'on soit fort. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit engagé. Puisque vous voyez, je vous donne un exemple. Quand on s'engage sur un truc, finalement, vous voyez les élites là au pouvoir essayer de nous freiner, en nous empêchant. J'ai dit en 2005, il y a des membres de Timodra qui sont partis en prison parce que tout simplement, ils ont fait une étude dans une zone qui a été demandée même par les chefs du village de cette entité-là pour libérer 7000 esclaves. Quand il y a eu... En tout cas, ces programmes-là, après l'État, qui a pris même cette loi-là en 2003, je vous parle de 2005, il est revenu pour dire que l'esclavage n'existe pas au Niger, c'est une escroquerie. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit fort pour amener l'État même à changer. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement,
rapidement,
il faut qu'on respecte la démocratie en tant que telle. C'est-à-dire tous les chefs traditionnels qui sont là. J'arrive, s'il vous plaît, tous les chefs traditionnels qui sont là, je ne dis pas de les effacer, mais c'est de revoir leur cas. Au Niger, on a créé un ministère de la renaissance culturelle et de la modernisation
sociale.
Je crois que ce ministère-là doit agir au niveau de cette chefferie-là pour quand même essayer de moderniser leurs choses.
Mais Moussa, Mahman, rapidement, vos propositions de solutions, vos recommandations? Rapidement.
Nos recommandations, je pense que la promotion et la protection de ces droits humains dans le domaine de l'esclavage passe nécessairement par l'éducation d'abord. L'éducation, pourquoi? Parce que quand vous avez en face de vous un homme qui ne veut pas se libérer lui-même, vous ne pouvez pas lutter pour quelqu'un alors que lui-même ne veut pas quitter son sort. Vous ne pouvez pas avoir de la pitié pour quelqu'un qui n'est même pas conscient de son statut. Donc, la première des choses à faire, c'est l'éducation.
Et la sensibilisation.
Et prévoir des programmes de développement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le véritable problème chez certains, ils pensent qu'ils dépendent à vie du maître et qu'après le maître, quand des associations comme Timidiria vont œuvrer à ce qu'ils soient libérés De l'emprise de son maître, qu'est-ce qu'il deviendra? Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va affronter l'avenir? Donc, pour ces gens, je pense que des programmes de développement, des activités qui puissent leur permettre de comprendre qu'ils sont aussi des hommes, ils ont toute la capacité, ils ont toutes les connaissances pour être comme leur maître, en fait.
Ce qu'il faut retenir au Mali, tout comme au Niger, plus d'un siècle après son abolition formelle par la colonisation, l'esclavage résiste toujours à l'acte juridique et politique qui, en principe, devait conduire à son éradication.
Merci donc, Mokhtar. C'est ce qui met fin à cette émission qui portait sur l'esclavage au Sahel. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ali Bouzou. Il est le secrétaire général de l'association Timidria et secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Maï Moussa Mahman, il est le chef de division à la CNDH au Niger. Et Ibrahim Agid Baltanat, il est le président de l'association TEMED. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de nos radios partenaires. Merci et au revoir.